Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien cher fidèle, étant élevé pour moi, je parle de moi, excusez-moi, une grande joie d'être parmi vous aujourd'hui, pour fêter avec vous ces 20 ans de l'acte héroïque des sacres épiscopaux posé par Monseigneur Lefebvre il y a 20 ans. Non pas moi, puisque pour les anniversaires, soit de sacerdoce, soit d'épiscopat, on attend les 25 ans. Je dirais même que mes confrères ont manqué de foi, mais ils voient que nous vieillissons et ils ont pensé qu'il fallait mieux fêter les 20 ans, mais pas attendre les 25 ans. C'est vrai que nous venons Dieu. Donc nous sommes ici réunis pour remercier Dieu de l'acte héroïque posé par Mgr Lefebvre il y a 20 ans. Envers et contre tout, même envers et contre le pape, sacré des évêques, pour garder la foi catholique, garder la messe de toujours et continuer l'Église, faisant ainsi ce que Mgr Lefebvre a appelé l'opération de survie de la tradition, c'est-à-dire de la foi et de l'Église. Et cela, j'en parlerai cet après-midi dans la conférence. On le change de sujet, complètement. Parlons aujourd'hui de la Sainte Vierge et du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque Monseigneur le Père a été suscité par le bon Dieu pour nous garder le sacerdoce et la messe, bien parlons-en. Et aussi de la Sainte Vierge, de son rôle. Hier, nous avons fêté la maternité divine de Marie. Marie, mère de Dieu. Un dogme de foi défini au Concile d'Éphèse en 431. Par ces paroles, si quelqu'un ne confesse pas que l'Emmanuel, Jésus, est vraiment Dieu, et que par conséquent, la Sainte Vierge est vraiment la mère de Dieu, puisqu'elle a mis au monde, selon la chair, le Verbe de Dieu fait chair, eh bien celui-là est anathème. Il soit anathème, celui qui ne confesse pas que Jésus est Dieu et que la Sainte Vierge est la mère de Dieu, qu'il soit anathème. Mais voilà qu'un certain théologien en 1967, qui s'appelait Joseph Ratzinger, dans ses cours de théologie à Tübingen, a osé penser autrement. Jésus n'est pas tellement Dieu fait homme, mais il est l'homme qui, dépassant infiniment ses limites, s'est uni à l'infini, Dieu. C'était une vue existentialiste, inspiré de Heidegger, le grand philosophe de Fribourg en Brisbane à ce moment-là, était à la mode. Donc de penser que Jésus n'est pas tellement Dieu fait homme, ça ne nous intéresse pas, mais c'est l'homme qui se fait Dieu, qui devient le divin. L'homme qui, dépassant ses limites, s'unit à Dieu. Et par conséquent, la Sainte Vierge, ça ne le dit pas, il ne le disait pas. Mais la conséquence logique, c'est que la Sainte Vierge n'était pas la mère de Dieu. Elle était l'homme, la mère de cet homme, Jésus, qui est devenu Dieu. Et donc, Joseph Ratzinger, sans le vouloir sans doute, sans le vouloir, renouvelait les récits de Nestorius, condamné au Concile Cécile d'Éphèse en 431, solennellement. Voilà donc un théologien qui retombait dans une hérésie condamnée solennellement par un concile et qui logiquement devait conclure que la Sainte Vierge n'est pas la mère de Dieu. C'est grave quand même, cher fidèle. Ce théologien est devenu pape. C'est le pape régnant aujourd'hui. Alors n'allez pas me dire que c'en est fini avec la crise de l'Église. Ce n'est qu'une petite introduction à mon sujet. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, c'est le dogme fondamental de la religion chrétienne, que les musulmans et les juifs refusent. Et donc, plus ils le refusent, plus ils vont proclamer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où découle son sacerdoce, sa royauté sociale, parlons-en. Donc parlons d'abord de Jésus et de sa divinité, de toutes les conséquences qui découlent de sa divinité. Si Jésus-Christ est Dieu, alors toutes les conséquences en découlent. Il est le roi, il est le prêtre, il est le sauveur, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur né. Le cardinal Pie, dont nous inspirons, qui vivait au XIXe siècle à Poitiers, évêque de Poitiers en France, enseigne que Jésus-Christ est roi par droit de naissance, par son incarnation, l'homme Jésus-Christ, qui n'est autre que le Fils de Dieu fait homme, la personne divine du Verbe, cet homme Jésus-Christ est roi. Car si un homme parmi nous, qui s'appelait Jésus, c'est le bon Dieu, alors nécessairement il est le roi. Il a son mot à dire en toutes choses, même temporelles, même dans la société civile, même au gouvernement, même au parlement. C'est ce qu'on appelle la royauté sociale de Jésus-Christ, que nous professerons dans 2 semaines, dans la fête du Christ le roi, instituée par Pie XI pour cela, pour proclamer le règne de Jésus sur les choses temporelles et sur les gouvernants. Et saint Paul enseigne déjà, C'est pas une invention de Pie XI. Saint Paul aux Colossiens dit, en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, parce que en lui, toutes choses ont été fondées, qui, en Jésus, toutes choses, même la société, toutes choses ont été fondées sur Jésus-Christ. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et toutes ont leur consistance en lui. Rien ne peut tenir sans être supporté, sans être soutenu, sans reposer sur Jésus-Christ. Rien ne peut tenir, même dans la société temporelle, en France, comme dans les autres pays. Rien ne peut tenir si ce n'est pas fondé solidement sur ce unique fondement qui a été donné, qui est Jésus-Christ. Voilà. La vérité de foi qui découle de sa divinité. Tous les, donc les chefs d'État doivent reconnaître Jésus-Christ. La loi civile doit reconnaître la divinité de Jésus-Christ. La loi civile doit se conformer à la loi de Jésus-Christ. Nos lois doivent être conformes à la loi de Dieu. Voilà ce que nous proclamons contre les laïcs, contre les laïcistes, contre la laïcité, qui est une horrible blasphème contre la divinité de Jésus-Christ. Dire que la France, elle est en France, est une république laïque, qu'elle ne reconnaît ni Dieu ni Jésus-Christ, c'est un blasphème public. Et c'est la fausse démocratie qui veut que toutes les opinions puissent s'exprimer, la vérité comme l'erreur, l'erreur comme la vérité. Toutes les opinions doivent avoir sa place maintenant en public. Donc toutes les erreurs doivent la même place, doivent avoir la même place que la vérité. Donc tous les faux dieux doivent avoir la même place que le vrai Dieu. Et les faux prophètes doivent avoir la même place que l'unique prophète Jésus-Christ. Voilà les conséquences de la négation de la royauté de Jésus-Christ. Or maintenant, le pape Benoît XVI renouvelle ses erreurs. Il ne parle pas de la divinité de Jésus-Christ, mais il nie sa royauté. Il dit, l'État, la France, les autres États, ne peuvent pas reconnaître Jésus-Christ. C'est impossible. Il a dit à Mgr Lefebvre, il y a 20 ans, c'était le 14 juillet 1987, il l'a reçu, Monseigneur, le cardinal Ratzinger a reçu Mgr Lefebvre, et il lui a dit, Monseigneur, l'État ne sait pas qui est Jésus-Christ. L'État ignore la divinité de Jésus-Christ. Eh bien, c'est une profession d'athéisme officiel de l'État. C'est une chose abominable. Or, il continue, devenu pape, il maintient ses erreurs. Je vous le montrerai cet après-midi. Donc, professons bien, chers fidèles, que Jésus-Christ est le roi de toutes choses. Et dans quoi il est aussi le prêtre, le grand prêtre. Puisqu'il est Dieu, l'homme Dieu, il est le pontife par excellence, celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Il est Dieu et homme à la fois. Il fait le pont entre le ciel et la terre. Il est le pontifex, puisque pontifex signifie en latin celui qui fait le pont, le médiateur par excellence. Dieu a voulu s'incarner, Dieu a voulu devenir homme pour faire un pont entre le ciel et la terre, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il est prêtre par naissance, Jésus-Christ. Ce qui le constitue prêtre, c'est l'union hypostatique qui fait subsister sa nature humaine dans la personne divine du Verbe. Voilà. Jésus-Christ n'a pas une subsistance humaine, il subsiste dans la personne divine du Verbe. Jésus-Christ est une personne divine. Jésus-Christ est la personne du Fils de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. L'union entre une nature humaine et puis la personne divine du Père. C'est ça qui constitue Jésus prêtre. Et c'est cela que les prêtres, que vos prêtres, participent par un mystère insondable. Et que notre sacerdoce à nous, prêtres, n'est qu'une participation du sacerdoce de Jésus-Christ. Donc, d'une certaine manière, une participation de la grâce d'union hypostatique de Jésus-Christ. Une chose tout à fait extraordinaire. Et Jésus-Christ est prêtre non seulement par nature, par naissance, dans le sein de la Vierge Marie, mais il est prêtre à la croix. C'est là qu'il exerce l'acte principal de son sacerdoce. Et c'est ça que nous proclamons contre les hérétiques modernes qui prétendent que Jésus exerce son sacerdoce au ciel. Oui, il exerce au ciel, mais il exerce d'abord sur la croix. Et toujours sur la croix, à chaque messe, Jésus-Christ continue d'exercer son sacerdoce qu'il a exercé sur la croix. L'acte principal du sacerdoce de Jésus-Christ, c'est l'immolation, c'est le sacrifice, c'est sa croix. Et c'est là qu'il a accompli notre rédemption par le précieux sang. C'est ce que enseigne le premier pape, Saint-Pierre, disant aux chrétiens, vous n'avez pas été racheté par de l'or et de l'argent, mais par le précieux sang d'un agneau immaculé, le Christ. Parole définitive de Saint-Pierre. Donc le précieux sang a été le prix que Jésus a payé à notre place pour nous racheter de l'esclavage, du démon, du péché, et de la loi mosaïque en plus. Trois libérations. Du péché, du démon et de la loi mosaïque. Comment il nous a rachetés? En versant son sang. Son sang est le prix qu'il a payé à notre place. Parce que sa chair et son sang sont la victime de la croix. Saint Thomas explique très bien que la chair, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, était la victime par excellence acceptée et agréable à Dieu pour nos péchés. Parce qu'elle était d'abord la chair d'une nature humaine, d'un homme comme nous, donc capable d'être offerte pour nous, les hommes. Deuxièmement, c'était une chair, un corps faible, passible, mortel, comme le nôtre, sans le péché. Et donc, il était apte à être immolé. Jésus pouvait mourir, la preuve, on l'a mis à mort, et il a accepté la mort. Ensuite, parce que c'était une chair sans péché, et donc il était capable d'être immolé pour expier les péchés, parce qu'il était sans péché, Jésus. Et enfin, parce que c'était sa propre chair, sa propre vie qu'il donnait, par charité. Et donc ce sacrifice était infiniment agréable à Dieu son Père, à cause de la grande charité que Jésus avait en offrant son propre corps en hostie de sacrifice. Voilà ce que nous professons. Et donc nous professons aussi que, en mourant sur la croix, Jésus a offert un sacrifice à Dieu son Père, un sacrifice de propitiation et d'expiation. Il a vraiment expié nos péchés. Le prophète Isaïe déjà le prophétisait dans le chapitre 53, quand il voit l'homme de douleur broyé à cause de nos péchés. Et enfin un sacrifice pour nous libérer du péché. Déjà saint Isaïe dans l'Ancien Testament le prophétisait. Et saint Paul, à toutes les lignes de l'Épître aux Hébreux, le proclame que son sacrifice de la croix à Jésus est la parfaite expiation de nos péchés. Que Jésus donc a offert sur la croix une satisfaction parfaite et surabondante à Dieu son Père pour nos péchés. Il a accompli parfaite justice envers Dieu son Père. Il a rétabli la justice envers Dieu. Par le péché, nous avions offensé infiniment le bon Dieu, bien sûr, et seul un homme Dieu, Jésus-Christ, pouvait réparer l'offense infinie du péché. Voilà ce qu'enseigne toute l'Église, depuis toujours. Que la croix, le sacrifice de la croix, est une expiation et une satisfaction. Or maintenant, le même abbé Ratzinger, quand il était à Tübingen, et encore maintenant, dans sa dernière encyclique, de Benoît XVI, vous avez peut-être lu, je ne sais pas, cher fidèle, il enseigne autre chose. Sur la satisfaction de Jésus-Christ sur la croix. C'est intéressant de savoir, en trois points, je vous le résume. Ça nous concerne tous. C'est le pape qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, la satisfaction de Jésus-Christ sur la croix n'est pas un acte de justice envers Dieu. Non. C'est simplement que sur la croix, Jésus a aimé pour nous, à notre place. Parce que nous, le péché, c'était un manque d'amour envers Dieu, un manque d'amour. Alors Jésus, eh bien, nous remplace et nous a aimé pour nous, à notre place. Mais l'expiation du péché et la satisfaction du péché, non, rien. De justice envers Dieu, non. Jésus a aimé pour nous, il nous a remplacés. Jésus est notre ersatz d'amour, notre supplément d'amour. Il aime pour nous. C'est la croix. Aimer pour les autres. Il n'a pas expié nos péchés. La négation hérétique. Il n'a pas expié nos péchés. Deuxièmement, c'est pas fini. Sur la croix, Jésus partage notre condition souffrante. Et ce fait, Jésus souffre. Il se fait homme parmi les hommes. Il partage notre condition souffrante et malheureuse. Et cette souffrance partagée est pour les hommes une consolation, un moment de rédemption, dit-on. Je vous cite là la dernière encyclique de Benoît XVI, comment il explique la rédemption. Parce que Jésus partage notre condition souffrante sur la croix, donc il nous soulage psychologiquement, oui, de nos douleurs, et c'est pour nous une consolation, comme on dit, un moment de rédemption. Voilà la croix, la rédemption. C'est un petit moment de soulagement de nos souffrances quand nous voyons les souffrances de Jésus sur la croix. C'est psychologique. Mais ce n'est pas l'expiation de nos péchés. C'est la négation de la rédemption. Mais ce n'est pas tout. Troisième point, par sa résurrection. C'est plus la croix, c'est la résurrection de Jésus. C'est la victoire de l'amour sur la mort. Ce n'est pas vrai. C'est la victoire de la vie, de la mort. C'est l'âme qui reprend le corps. L'âme de Jésus qui se réunit à son corps. Non, par la résurrection de Jésus, Jésus opère la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait à l'homme justice de sa souffrance. Il y a la révocation de la souffrance passée. Désormais, on ne souffre plus après la résurrection. Donc, Jésus fait justice à l'homme de sa souffrance. Enfin, c'en est fini avec les souffrances, grâce à la résurrection. Donc, ce n'est pas la justice envers Dieu, c'est la justice envers l'homme. On est débarrassé de la souffrance par la résurrection. Voilà la justice. Mais il n'y a pas de justice envers Dieu, c'est la justice envers l'homme. Alors, ces trois choses sont trois négations et trois hérésies. Voilà, qu'on trouve dans l'encyclique du pape. Et oui, chacun peut le constater, vous pouvez le lire, c'est public. Je n'invente rien. Donc, c'est vous dire la gravité de la situation. Donc, c'est le mépris de la valeur de la souffrance. On ne veut plus de souffrance. On ne veut plus de sacrifice. Non, c'est l'amour, amour, amour. C'est tout. C'est une religion désincarnée. Un Jésus-Christ décrucifié. On ne retient que son amour. C'est pas faux. On oublie le reste. On oublie ses clous. Ses fouets, sa couronne d'épines, sa croix, son sang, la réalité de sa passion. C'est une religion désincarnée. C'est une religion gnostique, terminelle. C'est de la gnose. Nous sommes en pleine gnose avec le pape Benoît XVI. C'est triste de voir dire cela. Mais chacun peut le voir. Nous sommes obligés de le constater. Passons à la très sainte Vierge Marie. Donc la Sainte Vierge Marie est-elle vraiment mère de Dieu? On ne sait pas trop. Si elle est la mère de l'homme, Jésus-Christ qui s'est uni à Dieu, est la mère de l'homme, Jésus-Christ. Eh bien non, pour nous, et pour toute l'Église, depuis toujours, Marie est la mère de Dieu. Mutter Gottes, Gottes Gebärerin. Et par conséquent, conséquence, elle est la mère des hommes. Étant mère de Dieu, elle est la mère des hommes. C'est la conséquence logique. Elle est la mère de la grâce. Étant la mère de l'auteur de la grâce, qui est Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, elle est la mère de la grâce. Elle est donc la mère des élus et des prédestinés. Et vous savez que Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion, explique qu'une maman ne met pas au monde la tête sans mettre au monde aussi le corps de ses enfants. Eh bien, la Sainte Vierge n'a pas mis au monde seulement la tête de Jésus-Christ, mais tous les membres de son corps mystique, bien sûr. Donc nous sommes aussi véritablement les fils de Marie que Jésus est le fils de Marie. Nous sommes fils spirituels de Marie, mais véritablement. La Sainte Vierge est notre mère, étant la mère de Dieu et la mère des hommes, et spécialement des prédestinés, qui sont les conforts, c'est-à-dire, parce que la Sainte Vierge nous conserve dans toute notre vie dans son sein maternel et spirituel, où elle nous nourrit et nous agrandit dans la vertu, jusqu'au moment de la mort, où elle va nous mettre au monde de la vie éternelle. Voilà l'enseignement de Sainte-Marie qui monte mon corps. Et ce sont ceux qui vont être sauvés, les élus, qui sont le plus véritablement les fils de Marie. Vérité qui découle de la maternité divine de la Sainte Vierge. Si nous proclamons que la Sainte Vierge est la mère de Dieu, nécessairement, elle est la mère des hommes et spécialement des prédestinés. Mais vous savez que la Sainte Vierge est aussi notre mère au calvaire. Comme Jésus est notre roi par naissance et sur la croix, la Sainte Vierge est également notre mère par la naissance de Jésus et aussi au calvaire, au pied de la croix, se tenant debout pendant 3 heures, alors que son Fils divin agonise sur la croix. Elle communie intimement, comme une maman peut le faire seulement, avec les souffrances de son divin Fils, comme mère de Jésus-Christ. Elle compatit, c'est ce qu'on appelle la compassion de Notre-Dame. Les souffrances que la Sainte Vierge a eues au pied de la croix, auprès de son divin Fils. Et Saint Pédis, notre saint patron de la fraternité, enseigne dans sa belle encyclique sur la Sainte Vierge, il y a bientôt 100 ans, il y a 100 ans toujours, qu'en raison de la communion de souffrance de la Sainte Vierge et de son divin Fils, elle a mérité en convenance tout ce que Jésus nous a mérité en justice sur la croix. Jésus nous a mérité le salut sur la croix, tous les mérites qu'il vous déverse, toutes les grâces qui vous viennent de lui, et bien la Sainte Vierge les a aussi mérité avec lui, en convenance, en raison de sa dignité de mère de Dieu. Donc la Sainte Vierge a participé à notre rédemption. On pourrait l'appeler co-rédemptrice, c'est-à-dire coopératrice du Rédempteur. Mais ce n'est pas tout, enseigne Saint-Pédis. En conséquence de cela, dit-il, elle a mérité aussi d'être la dispensatrice de tous les dons que Jésus nous a mérités sur la croix et par sa mort. Dans les paroles de Saint-Louis. Et Saint-Louis-Marie Montfort enseignait déjà la même chose en disant que la Sainte Vierge, en raison de ce qu'elle a acquis avec son Fils, les mérites de Jésus-Christ, a mérité d'être la trésorière et la dispensatrice de toutes les grâces de Jésus-Christ. Trésorière et dispensatrice. Ce sont les paroles de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Schatzmeisterin und Ausspenderin aller Gnaden. On peut le dire dans toutes les langues et on doit le proclamer de tout notre cœur. Voilà la dernière perle qui manque encore à la couronne de la Sainte Vierge. Et il va bien que l'Église un jour définisse cette vérité de foi. Que la Sainte Vierge, la trésorière et la dispensatrice de toutes les grâces de Jésus-Christ, parce qu'elle les a méritées, elle les a gagnées avec lui sur le calvaire, selon le principe que celui qui a une part à la découverte d'un trésor ou à l'acquisition d'un trésor à part à sa distribution. Si vous découvrez un trésor dans un champ, eh bien vous n'avez pas, vous n'en êtes pas propriétaire à moitié, et vous avez le droit de distribuer la moitié avec le propriétaire du champ. La Sainte Vierge a gagné tous nos mérites avec Jésus-Christ sur la, au pied de la croix. Elle a donc le droit de disposer de ce trésor comme elle l'entend avec Jésus-Christ. Elle est donc vraiment la trésorière et la dispensatrice de toutes les grâces de Jésus-Christ. Belle vérité que nous devons vivre en priant notre rosaire, chapitaine, et en évitant les hérésies des modernistes qui, pendant le concile, avec Karl Rahner, qui était un hérétique allemand, et avec Joseph Ratzinger, ont dit non, nous ne voulons pas que le concile Vatican II parle de cette chose pour la Sainte Vierge. Il faut que le concile évite absolument de parler de médiatrice de toute grâce au sujet de la Sainte Vierge. Et de fait, si vous ouvrez les textes du concile, vous n'y trouvez pas. J'ai lu encore hier ou avant-hier le décret sur l'Église, où il y a un chapitre consacré à la Sainte Vierge, vous n'y trouvez pas ce titre de médiatrice de toute grâce. Le concile s'est tu et s'est tué en se taisant sur ce beau privilège mariable, en refusant d'admettre que la Sainte Vierge est médiatrice de toute grâce, le concile s'est stérilisé. Et ça, un des grands motifs, eh bien, c'est l'actuel pape, quand il était encore abbé Ratzinger. Imaginez un peu un ennemi de la Sainte Vierge à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a des pénitences aujourd'hui. Et en ce temps-là, pendant le concile, il y a 40 ans, c'était un des plus grands ennemis de la Sainte Vierge. Il faut savoir ça, c'est l'osnage, chers fidèles. On ne peut pas rester dans l'ignorance des vérités, de la réalité. Sinon, vous vivez dans un autre monde. Voyez la passion de l'Église actuelle. Et donc, notre espérance n'est pas dans des discussions avec Rome, avec ce successeur de Pierre-là, nous ne pouvons pas. Notre espérance réside dans notre prière et dans l'attente patiente d'autres jours meilleurs. Je suis désolé d'avoir dû dire dans ce sermon des choses si désagréables, si pénibles. Il me semble que la première des choses, c'est de dire la vérité. De reconnaître la vérité telle qu'elle est. Dans sa dernière encyclique, nous avons trouvé des choses abominables. Chers fidèles, ne nous laissons pas désanimer. Ne nous perdons pas courage. Tout n'est pas perdu. Grâce à Dieu, il y a encore des catholiques fidèles, des prêtres fidèles et des évêques qui s'efforcent d'être fidèles. Imitons la conduite dans l'Ancien Testament des Maccabées. Aujourd'hui, au Béviaire, tous les prêtres lisent le chapitre 4 du premier livre des Maccabées. Vous pouvez les lire. C'est magnifique, cette leçon des Maccabées d'aujourd'hui, ça nous jette une lumière sur la crise actuelle et sur notre conduite que nous devons avoir, les laïcs comme les prêtres. Je vous raconte l'histoire. Donc, Judas Maccabée, fils de Matthias, avec ses frères, ont remporté une grande victoire contre les païens et ont libéré Jérusalem. Les païens d'aujourd'hui, ce sont les modernistes. Et la victoire pour libérer Jérusalem, la vraie Église, c'est Monseigneur Lefebvre, avec sa fraternité et toutes les plus hautes traditions qui se sont réunies autour de lui. La victoire, elle a été remportée quand Monseigneur a fondé la fraternité il y a 40 ans. Alors, après leur victoire, Judas Maccabée et ses frères sont montés au temple de Jérusalem pour voir l'état des lieux. Triste spectacle. Les portes arrachées et brûlées. Dans les cloîtres, des ronces et des épines qui croissaient dans les cloîtres. L'image de la vie religieuse aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pleuré. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont répandu de la cendre sur la tête en signe de pénitence. Première chose, pénitence. Voilà. Dans la crise de l'Église, pénitence. Nous sommes aussi coupables. Eh oui. Nous sommes aussi coupables. Donc, pénitence. Dieu nous a frappés. Dieu a laissé le temple profané. C'est notre faute. Voyez, belle réaction surnaturelle. Pourquoi le temple est-il profané? À cause de nos péchés. Pourquoi le modernisme règne-t-il dans nos églises? À cause de nos péchés. Première réaction, la pénitence. Ensuite, deuxième réaction, on va s'organiser. Donc, deuxième tableau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont diviser les rôles. Vous, les laïcs, dit-il, vous allez continuer à lutter contre les Grecs et les païens. Et nous, les prêtres, nous allons reconstruire le temple. Voilà. Là, on va distinguer les charges. Vous, les laïcs, vous allez continuer le combat contre les mauvaises lois, l'avortement, le divorce et d'autres choses encore plus abominables. Sur le terrain temporel, vous, les laïcs, vous allez vous engager en politique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'inscrire à un parti. Ça veut dire qu'il faut avoir quelques actions politiques. Vous, les laïcs, c'est votre rôle. Et nous, les prêtres, nous allons reconstruire le temple. C'est-à-dire nous allons maintenir la vraie messe et la vraie doctrine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tous ces autels qui ont été contaminés par le faux culte des idoles, il faut les détruire et les remplacer par de nouveaux autels, par de nouvelles pierres. Le troisième tableau, la reconstruction de l'autel. Ils ont reconstruit l'autel sur le modèle de celui qui avait été antérieurement. Ils ont reconstruit les choses exactement comme elles étaient avant. C'est ce que nous faisons, chers fidèles. Nous n'avons rien changé. Nous avons reconstruit les choses exactement comme elles étaient avant dans l'Église. Et rassurez-vous, d'ici quelques années, quelques décennies peut-être, les choses reviendront dans toute l'Église, pas seulement ici dans l'oratoire Saint-Joseph, mais dans toutes les églises du monde, dans toutes les églises catholiques, les choses reviendront exactement comme elles étaient avant le Concile, c'est-à-dire comme elles étaient à la mort du vénéré pape Pie XII, il y a juste 50 ans, le 9 octobre 1958. Ils sont cinquantenaires aujourd'hui. On a trop oublié les 50 ans de la mort de Pie XII qui ont marqué le début de la Révolution dans l'Église. Eh bien, je vous garantis, chers fidèles, je ne suis pas prophète, mais c'est évident. D'ici quelques décennies, toute l'Église reviendra comme avant. Que ça nous console, que ça nous encourage. Continuons le combat sans nous laisser désanimer et décourager par le spectacle que nous donne Rome à l'heure actuelle. Prions le rosaire. Mettons en action la médiation universelle de grâce à la Sainte Vierge, par la prière à la Sainte Vierge. C'est un dogme en action, la médiation de Marie-Anne. C'est un dogme en action. Nous le mettons en action chaque fois que nous prions à la Sainte Vierge. Chaque fois que nous avons même, comme dit Saint Louis-Marie Montfort, une petite œillade, un petit coup d'œil, un petit clin d'œil vers la Sainte Vierge au cours de nos occupations quotidiennes. Pour nous unir à la Sainte Vierge et par elle à son divin Fils et au bon Dieu. Chers fidèles, rassurons-nous, nous tenons le bon bout, nous avons la Sainte Vierge avec nous, médiatrice de toute grâce, nous reconstruirons le sanctuaire, toute l'Église, comme elle était avant, et nous ferons régner Jésus-Christ dans la société, dans toutes les sociétés, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils.